Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Casse-Zébule, où cette semaine, nous allons parler uniquement de Jeanne d'Arc, sur une idée de Christol Seeck. Donc Jeanne d'Arc en bande dessinée, il y a eu plusieurs albums, nous avons sélectionné trois. Christol, pourquoi Jeanne d'Arc est aujourd'hui ?
Alors d'une part, c'est bientôt la fête de Jeanne d'Arc, hein. Et d'autre part, actualité oblige, sont sortis il y a 2 jours, 2 semaines et 1 mois, 3 bandes dessinées consacrées à Jeanne d'Arc. Alors c'est vrai que Jeanne d'Arc, on sait que c'est vraiment l'un des thèmes majeurs du cinéma historique, mais également de la bande dessinée historique. Et par le passé, il y avait déjà une dizaine de titres dont on reviendra peut-être en fin d'émission dessus, on verra si on a le temps. En tout cas, là, on va se focaliser sur ces 3 titres ou 3 séries. Effectivement, nous avons une série très connue sur la guerre de 100 ans et 2 nouveaux titres. Je pense que on peut les présenter sous l'angle de la guerre de 100 ans, de la grande série Le Trône d'Argile, puis en se focalisant sur les 2 bandes dessinées en album isolées, l'une sur Cochon, l'autre sur le siège d'Orléans. Ou alors, on peut commencer par la meilleure, qui est, à mes yeux, Cochon, avec le scénario de Dorison, dont on parle assez fréquemment dans ton émission.
Alors, tout à fait. On peut commencer peut-être par l'album le plus surprenant, qui est Cochon.
Cochon.
L'homme qui tue à Jeanne d'Arc, qui est paru chez Dargo. C'est une grosse bande dessinée, hein, 176 pages, qui est tout à fait... étonnant dans la forme, évidemment dans le dessin, avec une espèce de mise en scène d'un Moyen Âge, évidemment un peu sanglant, un peu sale. On a l'impression de se retrouver quand même dans ces films Netflix dans les vignettes des manuscrits enluminés, on a des paysages absolument dégoulinants de couleurs, de lumière, avec du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Là, on est plongé dans cette idée un peu du Moyen-Âge façon Monty Python, sacré Graal, qui n'est que gris, marronasse, couleur de ciel d'orage. C'est un peu étonnant. Et à côté de ça, le dessin de Joël Parnotte, indépendamment donc de la mise en couleur, est un dessin vraiment brio, avec un côté couleur directe, donc vraiment une mise en couleur magnifique, des mises en page très dynamiques, des plongées, des contre-plongées assez fortes. Et l'idée, c'est quand même de nous faire comprendre qui est l'évêque Cochon, de ne pas le réduire au personnage qui est l'homme qui tua Jeanne d'Arc, puisque c'est le sous-titre de cet album, vraiment de nous faire pénétrer dans ce qu'un évêque pouvait être au XVe siècle.
Alors effectivement, le scénariste Xavier Dorison est tombé sur l'histoire de cet évêque, l'évêque Cochon, et il s'est dit, on connaît peu de choses sur ce qu'il pensait réellement lors du procès. Eh bien, comme le font beaucoup de scénaristes, il va imaginer lui-même un récit qui, pourquoi pas, tient la route. J'avais assez peur en commençant la lecture, puisqu'il faut dire que Xavier Dorison est quelqu'un, on peut l'être, hein, qui est athée, et donc je me disais, quelle va être sa vision de Jeanne d'Arc ? Est-ce qu'il va en dire du bien, la respecter ? Ce que l'on peut faire, que l'on respecte, que l'on croit ou non en le fait qu'elle ait entendu des voix, peu importe, ou bien est-ce qu'il va critiquer, dénigrer Jeanne d'Arc en la montrant comme une folle, comme d'autres bandes dessinées ont pu le faire par le passé ? Eh bien, je dois dire qu'à ma grande surprise et à mon grand respect, Xavier Dorison est respectueux. C'est-à-dire, fondamentalement, il imagine que l'évêque Cochon, qui est quelqu'un de dessiné de façon assez grossière, sais-tu, Richard, petit trait d'humour, quel était le modèle de dessinateur pour dessiner l'évêque Cochon ? Est-ce que tu as remarqué ou pas ?
J'ai l'impression que c'est Sean Connery, mais voilà, j'ai pas de, je n'ai pas de lumière particulière.
Eh bien non, Lévi Cochon, le dessinateur à la demande des scénaristes, s'est inspiré de l'ancien ministre de la Justice sous Macron, Éric Dupond-Moretti, qui est
Ah oui,
quelqu'un de si
effectivement.
assez volumineux également. Et il faut imaginer que c'est Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, pourquoi pas, qui interroge Jeanne d'Arc. Petit trait d'humour au passage. Et tout l'intérêt de cette bande dessinée est de nous laisser croire que ce personnage ambitieux, Cochon, qui n'utilise ce procès qu'à des fins ambitieuses, il veut également, après ce procès, être reconnu et pouvoir dominer sur un grand évêché, ou plus encore, eh bien, l'évêque Cochon va petit à petit être séduit par la pureté de Jeanne d'Arc, par sa lucidité, son courage. Et surtout son idéalisme, puisque Cochon évoque le fait que dans sa jeunesse, il avait un idéal qu'il a perdu, et il va retrouver une certaine pureté, un certain idéal, en écoutant les réponses de Jeanne d'Arc aux questions posées par les 70 juges du procès. Il faut rappeler que lors de ce procès, il y avait 70 juges qui connaissaient très bien la vie de Jeanne d'Arc et lui tendaient sans cesse des pièges. Et quand on lit les minutes du procès, on se rend compte qu'elle répond à ces questions avec une clairvoyance et une intelligence surprenantes pour une paysanne. Et on peut même se laisser dire qu'elle était guidée par l'Esprit Saint. Je vais peut-être un peu loin, mais on a du mal à imaginer qu'au XVe siècle, une petite paysanne puisse répondre avec une telle beauté. Et on ne rappellera aux auditeurs que l'une de ses réparties, qui est merveilleuse, lorsqu'on l'évêque Cochon lui demande si elle est en la grâce de Dieu, ce qui est un véritable piège pour elle, elle répond, une réponse merveilleuse, si je n'y suis pas, qu'il m'y mette, si j'y suis, qu'il m'y garde. Et lorsque Cochon écoute toutes ces réponses-là, il est fracassé intérieurement. Et il se dit, je vais laisser une chance à Jeanne d'Arc de survivre. Effectivement, Jeanne d'Arc, on le sait, à la fin du procès, elle a peur du bûcher et elle décide de survivre, si ce n'est que la nuit suivante, dans des conditions mystérieuses, elle remet l'habit d'homme. Effectivement, cela la condamne au bûcher. Il faut prendre un peu de hauteur, il faut comprendre que le procès de Jeanne d'Arc, fondamentalement, était très important sur le plan politique. C'est un procès politique puisque si Jeanne d'Arc, pour de vrai, avait écouté des voix venant du ciel, ça signifiait que Dieu était du côté du français et que le vrai roi était Charles VII. Alors qu'au contraire, si les voix étaient fausses, Dieu était du côté anglais. Et c'était tout l'enjeu stratégique de ce procès qui est, on le peut dire, le plus grand procès du Moyen Âge. Et qui est l'un des plus grands procès politiques de l'histoire au sens large. Et c'est donc d'une importance fondamentale. Et Dorison arrive à se fondre dans ce procès. Et ce qui m'a plu, c'est qu'au final, Jeanne d'Arc conserve toute sa pureté. Le scénariste ne se demande pas si les voix ont existé ou non, ou bien s'il les a imaginées. Il explique que pour lui, Jeanne a imaginé les voix. Mais ce n'est pas dit dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, on ne sait pas, mais tout l'intérêt, c'est le contact entre quelqu'un qui a perdu toute foi en l'être humain, qui n'est plus qu'ambitieux, et il rencontre quelqu'un qui a un esprit pur. Et c'est vrai que Jeanne d'Arc avait l'esprit pur puisqu'elle a pu convaincre de sa pureté énormément de chefs de guerre qui la suivaient. Donc elle avait cela en elle, et Cochon a ressenti cela, et franchement, cela transpire dans la bande dessinée. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise.
Alors, il faut insister sur la taille de l'album. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 176 pages, mais il y a surtout, voilà, il fait 25 cm de large sur 30, quasiment 34 cm de haut. Il y a vraiment un côté grand album, bel album, qui contribue d'ailleurs au souffle de cette bande dessinée. Le fait de tenir quelque chose qui a plus d'ampleur qu'une bande dessinée normale est déjà en soi un message. Évidemment, on n'en peut que mieux apprécier le dessin de Xavier Dorison. David Dorison, c'est celui qui dessine notamment la série Undertaker, donc un western qui est plutôt très bon. David Delahaye, le scénariste, lui, effectivement, n'est pas et surtout un producteur de télévision, de documentation, etc. et de documentaire, pardon. Et c'est quelque chose donc de nouveau pour lui que la bande dessinée. Et enfin, il y a Joël Parnot aussi.
Le dessinateur Joël Parnot, ouais.
Oui, qui est le dessinateur, pardon, j'ai dit Xavier Dorison, ouais. Donc, ouais. Qui est le scénariste d'Undertaker, et donc c'est là où, effectivement, il y a une espèce de western qui n'hésite pas à être violent, voilà, on sent le côté un peu polar noir qui se mélange au, comment on s'appelle, au... porte un nom, au milieu du western. Le Parnot, lui, voilà, il nous avait habitués à être, si j'ose dire, l'exécutant docile, de scénaristes très différents, avec des scénarios qui, moi, ne m'ont jamais absolument passionné. Le sang des porphyres, par exemple.
Enfin, le sang des porphyres, le scénario était de Balak. Oui. Enfin, non, Balak, c'était Yann. C'est un pseudonyme de Yann.
D'accord. Ben, ça ne m'avait pas enchanté. Bon, il y a eu 6 tomes, hein, donc voilà. Donc, heureusement, je n'étais pas le seul aux commandes. Voilà, il avait déjà travaillé avec Xavier Dorison sur Le Maître d'Armes. Un album autoconclusif. J'ai lu ça dans la comment s'appelle la bande le communiqué de presse de deux albums qui viennent de paraître chez Glénat et dont j'ai parlé là, sur les histoires liées à l'émergence des services secrets autour de la Seconde Guerre mondiale et après. Et voilà, donc un album autoconclusif qu'on appelait avant un one shot, autrement dit, ça s'appelle juste un album de bande dessinée dont l'histoire se suffit à elle-même et qui n'est pas inséré dans une série. Voilà. Vraiment, ce Jeanne d'Arc là, ce cochon, est une surprise aimable parce que effectivement, il n'y a pas de point de vue donné sur les voix. Mais il n'y a pas non plus de suggestion. On se retrouve que ces voix sont forcément une illusion. Je veux dire, elles font partie d'un donné. Elles font partie du contexte. Il n'y a pas de. On n'essaie pas d'inciter le lecteur à croire ou à ne pas croire que ces voix n'existent pas. Voilà. On lui présente une Jeanne d'Arc qui est absolument lumineuse face à un cochon qui ressemble, qui est tout droit sorti en fait, à mon goût, d'un scénario d'Anouilh. Avec, on a l'impression que ce cochon-ci, en fait, c'est le crayon le crayon de la, comment dire, de qu'Anouilh fait face à Antigone. C'est-à-dire, c'est d'abord un homme de pouvoir, d'abord quelqu'un qui pense qu'il doit sauver le royaume, et c'est ça qu'il. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu, c'est que Warwick, donc l'anglais, est particulièrement méphitique. Là, il n'y a absolument rien qui est fait pour le sauver. Le type est un bloc de méchanceté satisfaite. C'est assez plaisant.
J'ai l'impression que tout récit qui dit du mal des Anglais, les Anglais te plaît par principe.
D'abord, j'y décèle la note de la véracité la plus juste. Et évidemment, ça m'incite à considérer que historiquement, l'ouvrage est digne d'éloge, ou en tout cas digne de foi. Voilà, si on ne présente pas Warwick comme étant un général génial, mais un fin politique, mais juste comme une brute sanguinaire, je me dis voilà que la personne a véritablement pris en compte une documentation sérieuse sur la période.
Bon, alors j'ajouterai un petit point positif et un petit point négatif. Un petit point positif, c'est que pour faire la publicité de ce nouvel album, Xavier Dorison explique qu'à ses yeux, c'est le premier procès stalinien de l'histoire.
Ben voilà. Donc
c'est déjà une note positive de présenter ainsi le procès de Jeanne d'Arc. On comprend ce qu'il veut dire. Ensuite, le dessinateur a un dessin que j'apprécie véritablement, une belle colorisation. Mais ce que je regrette, c'est qu'on est dans le cadre d'une bande dessinée historique Et pour ceux qui sont allés dans la ville de Rouen, on n'imagine pas qu'il y ait de collines autour. Or, dans la bande dessinée, Rouen est entouré de collines. Il le sait très bien, le dessinateur, mais il voulait faire un effet de style graphique. Bon, il faut mieux quand même respecter un minimum la géographie, les lieux, les monuments, pour que le scénario s'inscrive davantage dans l'histoire. Une petite critique au passage.
Voilà, bon, c'est vrai, voilà, il est juste sur Warwick, mais il est fantaisiste sur les collines. Alors, il est temps de dire un petit mot. Merci beaucoup de suivre cette émission. Merci beaucoup de nous écouter et d'être avec nous. Mais évidemment, si jamais vous donnez un peu d'argent pour nous soutenir, eh ben, ça marche encore mieux. Voilà, n'hésitez pas à aller sur soutenir.rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que de vos dons. Vous êtes déjà quelques milliers à nous donner, et ben, voilà, faites un petit effort, voilà, 2-5 euros par an, c'est peu pour vous et c'est beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Une autre bande dessinée, si tu veux bien qu'on aille dans cet ordre-là, la bande dessinée du Tronc d'Argile, qui est parue aux éditions Delcourt.
Alors effectivement, on passe des éditions
Le Trône
d'Argot.
d'Argile, pardon.
Oui, on passe des éditions d'Argot aux éditions Delcourt, avec deux albums, Le Trône d'Argile et Assiégé, tous les deux ayant la même scénariste, France Richemont. On va commencer par Le Trône d'Argile. C'est la série la plus connue sur la guerre de Cent Ans. On est rendu au septième tome, c'est le dernier. La série avait débuté en 2006 et allons savoir pourquoi. Depuis 10 ans, il n'y avait pas eu cette fin qui arrive donc. Tant mieux, comme ça la série est achevée. Mais on peut être un peu déçu par le scénario de ce septième tome. Alors, il faut rappeler qu'au début, lors de des tomes 1, 2 et 3, France Richemont, qui était historienne, diplômée en histoire médiévale dans des grandes universités et qui travaillait au Louvre et dans d'autres musées nationaux. Elle est contactée donc par Nicolas Jarry, un scénariste connu dans le monde de la bande dessinée, qui lui demande son aide pour faire la bande dessinée. Et en fin de compte, dans les trois premiers tomes, les deux bâtissent le scénario. Et il y a eu un désaccord entre eux pour le tome 4 et les suivants. Et Nicolas Jarry a quitté le navire, laissant toute seule France Richemont bâtir le scénario. Et je pense qu'elle connaît moins les ressorts dramatiques que Nicolas Jarry. Et donc, tout ce qui était plaisant dans les premiers albums, le scénario, perd un peu son intérêt, puisqu'on arrive davantage dans une étude chronologique de la guerre de Cent Ans, avec moins de ressorts dramatiques. C'est un peu le défaut de la fin de cette série. Ce qui était très bien, au début surtout, et un peu moins à la fin, c'est qu'elle se focalisait non pas sur Jeanne d'Arc, historique et personnage bien connu, mais sur un valeureux chevalier breton qui s'appelait Tanguy du Châtel, qui, durant toute sa vie, a participé à la guerre de Cent Ans, et qui donc, vers la fin de la guerre de Cent Ans, a côtoyé Jeanne d'Arc. C'était vraiment lui le personnage central des premiers albums, ce qui était très plaisant. Et tandis que dans les derniers, c'est Jeanne d'Arc le personnage principal, mais on connaît son histoire. Donc on découvre plus grand-chose. Ensuite, fondamentalement, ce que je reproche à France Richemont, c'est qu'elle plaque dans cette série sa certitude avérée, enfin à ses yeux avérée, que Jeanne d'Arc n'a jamais entendu de voix. Alors comment expliquer cela? Dans les romans, dans les films, dans les bandes dessinées et même les ouvrages historiques, les auteurs expliquent le parcours de Jeanne d'Arc, les uns par le fait qu'elle était sainte, pour de vrai, elle a entendu des voix célestes, elle était guidée par Dieu. Les autres imaginent que c'était une création de la monarchie française, une sorte d'espionne formée aux armes pour profiter du fait que le peuple français attendait une sorte de jeune fille pucelle pour sauver la France, une prédiction, et donc ce serait la monarchie qui aurait créé Jeanne d'Arc. Et pour un troisième groupe assez restreint, Jeanne d'Arc était tout simplement une folle. Voilà, un peu comme dans le film de Luc Besson. Et là, la scénariste est convaincue que Jeanne d'Arc est une création de la monarchie française, pourquoi pas, mais c'est fait de façon un peu stupide. Par exemple, comment Jeanne d'Arc entendait-elle des voix? La scénariste imagine qu'un alchimiste sicilien illumine un moine et une dame d'honneur qui sont censés représenter la nuit Saint-Michel et Sainte-Catherine. Ils font croire à une petite paysanne qu'elle voit Saint-Michel et Sainte-Catherine par une sorte d'artifice lumineux. Bon, c'est complètement débile, il faut le dire, mais...
Merci, merci de le dire aussi simplement.
Voilà, mais on oubliera ces deux planches de la série. Celui qui veut découvrir la guerre de 100 ans peut lire cette série et cet album. C'est quand même de grande qualité, notamment aussi grâce au dessin de Théo Canecci, dit Théo, un natif de Vinci en Toscane, qui est connu pour le trône d'argile et également parce qu'il avait repris la série Murena suite au décès du dessinateur Philippe Delaby.
Alors, il nous reste très peu de temps. C'est le moment de parler du dernier album qui est lui est plus intéressant, même si France Richemont est elle aussi à la manœuvre. Et donc là aussi, tu l'as reçu. Alors en fait, pourquoi est-ce que Christol parle abondamment? C'est parce que je n'ai pas pu. On n'a pas reçu les mêmes bandes dessinées. Et donc là, il s'agit de assiéger Orléans, donc de France Richemont et Filippo Cenni.
Voilà, c'est une nouvelle idée éditorialiste, Edition Delcourt, qui consiste à créer une nouvelle série consacrée à des sièges. Comment le peuple survit lors d'un siège? Un thème intéressant, qu'on connaît peu, il est vrai. Et le premier album est consacré donc au siège d'Orléans, scénarisé par France Richemont, donc qui, en tant qu'historienne, connaît bien le sujet. Et là, les protagonistes principaux de cette série, ce sont des Français, pour plaire sans doute à Richard. Nous avons le capitaine Lahire, maître Jehan, un artilleur, des apprentis qui vont nous faire découvrir, à travers leur parcours, comment ont pu résister les Français aux Anglais lors du siège d'Orléans. On rappelle que les Anglais arrivaient à Orléans et que s'ils arrivaient à prendre Orléans, eh ben, ils pouvaient traverser la Loire et conquérir toute la France. Et c'est donc Jeanne d'Arc, à la fin du siège d'Orléans, tout à la fin, qui délivre Orléans. Donc nous, Français, on connaît pour l'essentiel que la fin du siège d'Orléans, lorsque Jeanne d'Arc arrive. Cette bande dessinée, 90%, vraiment la très majeure partie, nous fait découvrir l'arrivée des Anglais qui entourent Orléans et la résistance des Orléanais. C'est très intéressant. C'est une nouvelle idée scénaristique, mais ça vaut le coup de le lire. Et encore une fois, c'est un dessinateur italien qui ne vient plus cette fois-ci de Vinci en Toscane, mais de Sienne, donc on reste en Toscane. Et un dessin très agréable. On redira encore une fois que les dessinateurs italiens sont de plus en plus édités en France depuis une dizaine d'années. C'est une bonne idée.
Mais avec à juste titre, parce que là, il y a un goût de la vignette historique. On a l'impression de se retrouver dans les années 50-60, dans Tintin, avec Fred et Liliane Funken. C'est-à-dire, il y a un plaisir de dessiner une mêlée d'hommes d'armes en armure surmontés de tout un tas d'étendards colorés, là, pour le coup. C'est des grandes planches voilà, qui occupent la double page, avec les flèches qui volent, comme dans les films du Moyen-Âge chinois qu'on nous met un peu fantaisistes, qu'on nous met en scène. C'est véritablement spectaculaire.
Ouais, et si on veut un mot, si ce sont plutôt des BD pour les adultes, si les parents veulent offrir une BD sur Jeanne d'Arc pour leurs enfants, on continuera de conseiller celle aux éditions Plein Vent, qui avait été créée par Pauline Dupuis en tant que scénariste. Et dessinateur, c'était David Perconti, encore en italien, je pense. Un de plus.
Bah, et puis surtout, si les parents ont envie d'offrir un joli livre à leurs enfants, c'est le Jeanne d'Arc de Boutet de Monvel, qui a été constamment réédité, qui là, pour le moment, n'existe plus, si je ne m'abuse, édité en librairie, enfin, est disponible en librairie, mais chez les soldeurs dans les livres d'occasion. Voilà, si vous tombez sur le Jeanne d'Arc de Boutet de Monvel, qui avait dû être édité chez Gauthier Langros, qui a été réédité à plusieurs reprises, c'est quand même l'ouvrage le plus excellent qui soit jamais paru sur Jeanne d'Arc, destiné aux enfants. Je crois que nous sommes arrivés au bout de ce planche case des bulles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs, et évidemment, à samedi prochain. Au revoir Christol, au revoir tout le monde.
Au revoir auditeurs, au revoir Richard.